Je vais laisser maintenant la main à Monsieur Lucas Paya sur l'agrivoltaïsme, sujet qui nous concerne sur le territoire. Lucas Paya, conseiller au réseau des générateurs, et les générateurs, c'est un réseau de spécialistes des énergies renouvelables qui a été mis en place par l'ADEME.
Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste pour compléter et pour vous informer un peu sur ce réseau, donc c'est un réseau qui est à destination des collectivités qui n'ont pas ou peu d'ingénierie sur les sujets éoliens ou photovoltaïques. Notre niveau d'intervention, notre champ d'intervention, c'est plutôt en phase amont d'un projet, sous deux types, donc soit de la sensibilisation, donc on peut intervenir en réunion publique ou animer une réunion de réseau pour informer sur les ENR, ou alors dans un cadre un peu plus technique pour aider peut-être soit à co-rédiger des notes d'opportunité ou d'autres sujets assez vastes. Si vous êtes élu d'une collectivité, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça se passe sur la page Totem du réseau des territoires en transition énergétique. Vous tapez les générateurs et normalement, il y aura une sorte de fichier pour effectuer votre demande. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir parler de l'agrivoltaïsme, qui est un sujet assez complexe et nouveau. Enfin, vous avez dû en entendre parler à maintes et maintes reprises ces derniers temps. L'agrivoltaïsme, ça s'inscrit dans le développement de l'énergie photovoltaïque, qui est un sujet assez ambitieux de la part de l'État, avec une trajectoire de développement inscrite dans la PPE, mais également au niveau régional, avec le scénario région énergie positive, qui s'est donné l'objectif, je crois, de multiplier par 3 la puissance installée en photovoltaïque d'ici 2030 et multiplier par 8 en 2050. L'agrivoltaïsme, ça devrait s'insérer dans ces objectifs, avec les autres typologies de projets. L'agrivoltaïsme, pour moi, enfin juste pour continuer à introduire, ça ressemble un peu à une sorte de choc des cultures. D'un côté, il y a le monde agricole. De l'autre côté, il y a un peu le monde de l'énergie, du développement du photovoltaïsme. Et l'idée de l'agrivoltaïsme, c'est voir comment ces deux mondes peuvent se parler et comment l'agriculture peut bénéficier de cela. Que ça soit pas, de mon point de vue, de ce qu'on a compris, c'est à l'agriculteur d'être quand même bénéficiaire de ce type de projet. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est l'agrivoltaïsme, avec quelques points de flou parce que il n'y a pas une définition encore totalement cadrée, notamment d'un point de vue réglementaire, même s'il y a une loi qui est sortie. Je vais vous faire une présentation en deux temps. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'étude de l'ADEME qui est sortie, je crois, l'année dernière, qui donne une sorte de cadre un peu méthodologique de qualification d'un projet agrivoltaïque. Et après, dans un second temps, je vous parlerai du cadre donné d'un point de vue réglementaire avec la loi d'accélération énergie renouvelable qui est sortie en mars 2023. Au niveau de l'étude ADEME, déjà, il faut comprendre qu'il y a des modèles agricoles et des systèmes photovoltaïques. Donc l'agrivoltaïque, il y a plusieurs types de systèmes. Ça peut être de l'ombrière fixe, quelque chose qui ne bouge pas. L'ombrière mobile, avec un système un peu robotique qui s'incline et qui suit la trajectoire du soleil, du PV sur toiture ou matériel, une serre PV, une centrale à panneaux verticaux bifaciaux ou une centrale au sol. Et ça peut aider beaucoup de modèles agricoles, ça peut être pour du maraîchage, la pisciculture, la viticulture, l'horticulture, et je ne vais pas tous les citer. Voilà pour que vous compreniez un peu la complexité, la diversité un peu de ce que peut être l'agrivoltaïsme. L'ADEME, ce qu'ils ont fait, voilà, ils ont pris conscience un peu de la difficulté, ils ont essayé de cadrer ça et de donner, on va dire, une méthode d'évaluation d'un projet photovoltaïque sur terrain agricole. Pour ce faire, ils ont établi deux choses. Des critères de qualification, notamment 3 principaux points. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent? Tout d'abord, le service apporté à la production agricole. Donc, ils se questionnent sur est-ce que le projet apporte-t-il un service à l'exploitation et de quelle nature? Ils regardent également l'incidence sur la production agricole en termes de performance quantitative et qualitative, à la fois pour la production énergétique, mais surtout pour la production agricole. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose en dessous de ces panneaux photovoltaïques et qu'il y ait la production agricole ou qui continue à perdurer. Et ensuite, le troisième critère pour l'ADEME, c'est le revenu de l'exploitation agricole, avec une interrogation sur l'incidence de l'implantation du projet PV sur les revenus de l'exploitation. Pour ce faire, ils ont créé, au milieu à droite, vous avez un tableau qu'ils ont appelé une sorte de gradient de classification des projets qui permet de répertorier ce qui est pour eux un projet agrivoltaïque, dont il répond aux 3 critères d'évaluation que je vous ai cités précédemment. Les projets qui ont un couplage, on peut dire, d'intérêt, qui répondent pas à tous ces critères, mais qui répondent en partie. Et idéalement, de positionner ceux qui ne répondent pas vraiment à ces critères, donc il n'y aura pas de couplage. Ce que je vous invite, c'est lorsque vous avez un projet photovoltaïque, ça se fait au cas par cas, vous utilisez ce tableau et ça permet de qualifier en amont pour voir si ça répond à ces définitions un peu. Est-ce que c'est de l'agrivoltaïsme? Donc, est-ce que ça apporte un service à la production agricole? Est-ce que ça répond et s'il y a une incidence sur la production agricole? Et est-ce que ça peut aider l'exploitant en termes de revenus complémentaires avec ses activités? Ils ont également, l'ADEME, établi des critères d'attention. Moi, je vais vous les citer assez rapidement. Donc, l'idée pour eux, c'est vraiment de regarder la vocation et la pérennité du projet agricole. Donc, qu'il y ait un projet agricole et qu'il subsiste. Que ça soit pas quelque chose qui disparaisse après quelques années. Ils veulent également regarder la réversibilité du système. Donc, le fait qu'on puisse, à la fin, qu'il y ait démantèlement des panneaux, qu'on puisse continuer à avoir une activité agricole ou autre chose. L'adéquation territoriale. Donc, le fait que ce projet agricole s'inscrive dans un projet de territoire. L'impact sur les sols, l'impact environnemental et paysager, et également le sujet de la flexibilité technique. Donc voilà, ça c'est plutôt pour le cadre et la définition de l'ADEME. Ensuite, au niveau réglementaire, la loi, enfin dans l'article de la loi, il y a trois sections à comprendre et qui permettent de bien intégrer la définition ou ce qu'est l'agrivoltaïsme. Tout d'abord, la première section, elle donne une définition de l'agrivoltaïsme, avec un décret d'application qui va bien sûr aider à définir certains points. Deuxième sous-section, donc elle évoque les installations qui sont compatibles avec une activité agricole. À chaque fois, je vais revenir dans le détail par la suite. Et enfin, troisième sous-section dans cette loi, les dispositions communes donc au projet agrivoltaïque ou aux installations compatibles avec une activité agricole. Pour revenir sur le sujet agrivoltaïque, pour que ça soit défini comme tel, il faut qu'il y ait au moins une de ces quatre choses. Donc, soit l'amélioration du potentiel agronomique, soit l'adaptation au changement climatique, donc que l'installation de ce projet aide à protéger peut-être des forts degrés, enfin forts niveaux d'ensoleillement, de la sécheresse, protection contre les aléas, donc peut-être des épisodes de grêle, et l'amélioration du bien-être animal. Tous ces termes vont être définis par décret. Bon, vous avez un peu l'intitulé, mais pas vraiment le détail. Dans cette loi également, l'agrivoltaïsme est défini, enfin voilà, elle est rédigée. Donc c'est défini comme tel, donc c'est comme une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole. Jusqu'à présent, vous le comprenez. Où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Donc c'est trois points. Dans la loi, il rajoute également que ne peut être considéré comme agrivoltaïque si l'installation ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale à la parcelle agricole. Donc toujours avec cette notion de majeur pour l'activité agricole, et si elle n'est pas réversible, donc si c'est quelque chose qui est permanent, et du coup fera perdre un peu l'usage agricole qu'a le foncier. Ensuite, deuxième sujet, donc sur les installations compatibles avec une activité agricole qui est un peu plus complexe, donc l'idée ça va être d'encadrer des types de projets, enfin une catégorie d'installations qui ne réunit pas les critères d'installation agrivoltaïque, donc les quatre points que je vous ai cités précédemment. Pour ce faire, va y avoir au niveau département la définition d'un document cadre, pas arrêté préfectoral, mais je crois qu'ils sont réalisés par les chambres d'agriculture départementales, après consultation de la CDPNAF, pour un peu donner les surfaces qui sont potentiellement identifiables, et il faut que ces surfaces soient incultes ou non exploitées. Donc ils vont devoir identifier certaines surfaces pour développer du projet photovoltaïque, que si ces surfaces sont déclarées comme incultes ou non exploitées. Ces deux termes vont être définis également par décret. On n'a pas encore la définition. Sur ce type de projet, et si le projet rentre dans ce document cadre, la CDPNAF rendra un avis simple. Donc un avis assez léger, on va dire. Ce ne sera pas une procédure très complexe. Ensuite, pour finir, les dispositions communes donc pour cette loi, il faut que pour qu'ils soient caractérisés soit comme projet agrivoltaïque, soit pour être une installation compatible, qui est une autorisation à une durée limitée, avec un démantèlement au terme d'une durée fixée par voie réglementaire ou au terme de l'exploitation. Évoque également le fait que les installations non autorisées seront non autorisées, pardon, si un défrichement de plus de 25 hectares sur un foncier agricole, on défriche et c'est plus de 25 hectares, ce sera pas possible, ce sera pas caractérisé comme tel. Et ensuite, pour les projets qui ne seront pas identifiés dans les zones du document cadre, donc établi par la Chambre d'agriculture, la CDPNAF rendra un avis conforme, donc une procédure un peu plus lourde. Voilà à peu près les différents sujets. Juste pour conclure, vu que c'est une filière assez nouvelle, on va dire, notamment d'un point de vue réglementaire, mais même d'un point de vue de cadrage méthodologique, je vous ai mis ici en vert les différents types d'opportunités que pouvait apporter l'agrivoltaïsme à votre territoire, et en jaune-orange un peu les freins, voire plutôt les points de vigilance, les points d'attention à prendre en compte avant de développer un projet agrivoltaïque. Donc déjà, le mot le plus voyant, c'est celui de l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui doit primer avant tout. La question de la transition énergétique, parce que l'agrivoltaïsme peut aider à participer à cet objectif de transition établi dans la PPE ou dans les objectifs région énergie positive. Le sujet de la gouvernance également, car pour avoir un projet réussi, il est important qu'il y ait vraiment une bonne gouvernance. Pour moi, dans l'idéal, c'est que l'agriculteur soit directement impliqué dans le projet, puisqu'il aura la vision de son territoire et de son foncier. Il aura cette envie de faire pour développer ses différentes cultures. La question de la partage de la valeur aussi, également, qui peut être intéressant pour le territoire, avec notamment, je crois, dans la loi accélération ENR, un article 93, qui évoque cette idée d'aide à financement de projets à vocation un peu durable sur les territoires lorsqu'il y a un développement ENR, donc qui peuvent aider les collectivités à porter certains projets. Et après, en termes de freins ou plutôt de points de vigilance, le cadre réglementaire, qui n'est pas encore totalement établi, il faut attendre les décrets qui définissent un peu les différents termes évoqués. L'appropriation territoriale également, parce que c'est un sujet qui touche à votre territoire, c'est vous qui avez une connaissance de vos cultures, vous êtes au fait de votre territoire. Et après, ensuite, peut-être le sujet de la spéculation foncière. Donc là, jusqu'à présent, le gros boom de l'agrivoltaïsme a été le fait que les fonciers plutôt artificialisés commencent à être bouchés, il y a eu énormément de demandes. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rabattues un peu sur les zones agricoles. Donc un point d'attention par rapport à cela, et voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Payan. On va passer à la phase de questions.
Nicolas Briand, société Apex Énergie. Même si les décrets d'application ne sont pas encore sortis et qu'on reste dans un flou juridique, je voulais revenir sur la notion d'activité agricole principale comparée à l'activité de production d'énergie qui est censée être secondaire. Selon vous, quelle sera la méthode de qualification de cette activité agricole principale? Est-ce qu'on parle de rendement de production agricole, de densité de panneaux par rapport à une densité culturelle? Si vous avez quelques éléments.
Ben, je vois deux réponses. Je pense qu'il y a la réponse de l'ADEME avec le tableau qui a été montré où il qualifie, il y a les différents termes. Il y a la réponse réglementaire où il y a la qualification du projet agrivoltaïque qui doit répondre aux quatre principaux points qui restent un peu flous parce qu'il y a besoin d'un décret pour un peu étayer tout ça. Mais il y a au moins quatre points qui sont cités, donc l'amélioration du potentiel agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou l'amélioration du bien-être animal. Après, à ma connaissance, j'aurais un peu de mal à aller plus loin sur le sujet. Peut-être c'est une question à poser plutôt à ceux qui ont un rôle d'instructeur.
Oui, juste pour compléter vos propos. Donc les projets agrivoltaïques devront faire l'objet d'un examen au sein de la commission que j'ai évoquée tout à l'heure, la commission départementale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est une commission qui est présidée par le préfet, qui associe donc des services de l'État, qui associe également les représentants de la profession agricole, les représentants du milieu associatif, des représentants des collectivités locales, du conseil départemental, des communes rurales, etc. Du coup, ces projets donneront lieu à une expertise également dans ce cadre-là. Voilà, mais vous avez évoqué effectivement les éléments que l'on connaît aujourd'hui et pour lesquels désormais il faut attendre les décrets d'application pour avoir une lecture plus précise. Et je crois que ces décrets sont notamment attendus sur ces critères d'activité principale. Voilà.
Si je peux compléter aussi également, il y a quelque chose qui est sorti, mais qui était avant la loi. Un label AFNOR, qui donne une sorte de garantie un peu à la collectivité, à l'exploitant, enfin aux porteurs de projets, pour respecter un peu tout ce cadre qui a été évoqué précédemment, donc notamment ce qui est au cœur de l'étude de l'ADEME. Je crois que ce label AFNOR peut être donné sur les projets plutôt à vocation de type culture. Ils sont en train de travailler sur les projets plutôt à vocation élevage. On est en train de faire cela. Et ce qui est intéressant, je ne suis pas expert sur le sujet, mais de ce que j'ai entendu un petit peu, c'est qu'ils font intervenir notamment un tiers donc qui fait un rôle entre le porteur de projet, peut-être la collectivité si elle est propriétaire du foncier ou l'agriculteur, et elle intervient en tant que tiers pour conseiller, aider et devenir garant de tous ces sujets évoqués lors de la présentation.
Dans le cadre de l'examen de ces projets agrivoltaïques au sein de la commission départementale, donc, ces projets sont désormais assujettis à l'obligation d'une étude préalable agricole qui devra aider justement à démontrer la prise en compte des critères qui ont été définis et notamment le lien de nécessité du dispositif en lien avec l'activité agricole. On est bien sur un rapport de complémentarité entre une activité agricole qui doit être exercée à titre principal et pour lequel, au regard d'un des services rendus attendus, en tout cas, le dispositif photovoltaïque permettra de l'exercice de cette activité et de répondre à un des services attendus.
Merci, bonjour. Olivier Vanderac, donc professeur de sciences de la Terre à l'Université de Toulouse. Et donc, je voudrais faire d'abord un commentaire et puis une question. Le commentaire, ce n'est pas mentionné là, la notion de bilan carbone. Je pense à juste titre, parce que tant que les panneaux photovoltaïques sont construits ailleurs qu'en France, c'est pas positif au niveau bilan carbone. Donc ça, c'est le commentaire. Puis la question, donc c'est une question toute bête. Donc il y a la notion d'amélioration du potentiel pour l'agriculture, de ces parcelles agrivoltaïques. Et une fois qu'on a mis des panneaux solaires proches du sol, donc le soleil n'arrive plus au sol. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a un retour d'expérience sur quel type d'amélioration on peut apporter sur ce type de parcelle? J'imagine qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse en dessous ou qu'est-ce qui peut être apporté comme potentiel?
Qui veut répondre à cette question?
Juste répondre sur la question du bilan carbone des panneaux solaires. Le retour énergétique, c'est de 2-3 ans d'un panneau solaire, même s'il est fabriqué en Chine. Au bout de 3 ans, il restitue l'énergie donc, qu'il a fallu pour le construire, extraction comprise. Donc c'est très rapide. Si, si. Il y a des sources ADEME, il y a des études qui ont été faites sur le bilan carbone des panneaux solaires. Juste, moi j'ai une question, alors du coup je ne réponds pas à l'autre question sur ce qui se pousse dessous, mais il y a des études qui sont faites en cours, il y a plein d'expérimentations. Tous les développeurs font des expérimentations pour prouver que, alors leur but c'est de prouver que ça fonctionne, bien entendu. Mais il y en a, juste une question complémentaire là-dedans, en fait il y a une dimension qui n'est pas prise en compte. C'est qu'un projet qui est installé aujourd'hui chez un agriculteur, imaginons qu'il a tous les critères, c'est une installation de 30 ans. À peu près, cycle de vie du photovoltaïque. L'agriculteur, il ne sera plus là au bout de 30 ans. On sait très bien qu'il y a une déperdition du nombre d'agriculteurs, qu'on a une problématique de renouvellement des générations des agriculteurs, donc qui va gérer les terres agricoles? Comment va s'articuler ces passages-là? Et en fait, pour moi, ça dépasse complètement ce dont on parle, quoi. Le premier souci, c'est quand même de se nourrir et de faire en sorte que ces terres agricoles, leur usage premier soit sécurisé dans le temps. Donc il y a ces questions-là comme d'articulation qui sont assez complexes et qui ne sont pas du tout prises en compte. Et ça interroge la question de gouvernance. Est-ce que c'est l'agriculteur seul en fait qui doit porter aussi ces questions-là, ou est-ce que du coup il doit s'associer avec son territoire de vie, avec la collectivité locale, avec les habitants du territoire, etc. Donc c'est des nouvelles choses qui malheureusement pour moi manquent tout à fait dans cette problématique.
Je vais essayer de répondre aux deux questions sur ce qui pousse sous les panneaux photovoltaïques. Peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais la définition très précise de l'agrivoltaïsme, l'objectif justement, c'est qu'il y ait soit une production constante, soit une amélioration de la production. Si ce n'est pas le cas et s'il y a une perdition, ce n'est pas l'agrivoltaïsme. Enfin, c'est le cadre qui a été donné. Ensuite, sur le panneau photovoltaïque qui ne bouge pas, qui empêche la zone d'ensoleillement, pareil, au début, en fait, j'ai évoqué, il y a plusieurs systèmes technologiques qui sont en place, notamment des ombrières qui suivent un peu l'orientation du soleil. Et l'idée dans ça, il y a des études, il y a l'INRAE qui travaille un peu également sur le sujet, c'est d'étudier un peu pour chaque type de plantation les effets bénéfiques ou non pour la culture en place. Après, pour approfondir un peu le sujet, moi je pense qu'il est vrai qu'il y a besoin de retour d'expérience encore, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'expérimentations qui sont en cours. Celles qui ont été réalisées, elles ont été pour le moment, j'ai l'impression, assez positives. Je n'irai pas dans le détail de la type de culture, pour être sincère, je ne m'y connais pas assez. Mais par contre, il est vrai qu'il y a des retours d'expérience positifs. Ensuite, sur le sujet de gouvernance, je suis entièrement d'accord. Je pense que l'agriculteur sera, s'il est dans la gouvernance du projet, il sera un peu garant de la bonne conduite et la bonne, ce qu'il fait sur le territoire, de par ce qu'il produit, apporter quelque chose. Et ce serait beaucoup plus positif qu'il soit à l'intérieur de la gouvernance du projet. En termes de bail, je sais qu'il y a un problème, notamment sur le... entre le bail agricole qui dure sur X années et le bail amphithéotique, enfin le bail pour le développement des énergies renouvelables, il est vrai qu'à un moment donné, peut-être au bout de 6 ans de la fin du bail agricole, alors que le bail photovoltaïque court encore, il y aura une sorte de vide. Qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être que le producteur, l'exploitant, pourra à ce moment-là mettre de côté l'agriculteur. si vrai. Il y a un peu un flou en ce moment-là sur le sujet. Et je pense que ça peut faire partie également des points de vigilance à regarder. Bah, je pense que... assez rapidement, et j'aurais du mal à rentrer dans le sujet, mais peut-être il faut avoir une renégociation et avoir, au niveau de la temporalité, une même temporalité entre les deux contrats.
Très rapidement, pour dire que la Chambre d'agriculture aussi planche sur le sujet, qu'il y a des réflexions en cours. Et voilà, donc la loi ouvre la possibilité concernant l'établissement d'un document de cadrage, mais qui ne concernera que les projets dans un rapport de compatibilité, donc on n'est pas sur l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme a vocation à se développer partout en zone agricole, mais la Chambre d'agriculture quand même se préoccupe de ce sujet et donc travailler à l'établissement d'éléments de doctrine concernant notamment le montage opérationnel de ces projets agrivoltaïques.
Oui, donc là, je reprends la casquette Scott. Et alors, j'ai deux particularités, peut-être de tard, c'est d'avoir siégé à la CDPENAF le mandat passé et d'avoir fait toute ma carrière dans un bureau comptable. Et moi, j'avais 80% d'agriculteurs dans ma clientèle. Voilà, ceci étant, il y a des choses qui me parlent. Alors, je vais être peut-être un peu technique, je sais pas. Il y a plusieurs choses. Quand il y a marqué défrichement de plus de 25 hectares, c'est déjà la notion, qu'est-ce que c'est que on défriche quoi? Parce que la définition cadastrale de la parcelle boisée, la définition de la mutualité sociale agricole, la définition de je sais pas quoi, vous avez des parcelles qui sont boisées depuis plus de 20 ans et qui sont encore en culture à la MSA. Donc, légalement, on ne défriche pas. Et pourtant, on défriche. Ça, c'est la première chose. Dans les quatre conditions, hein, c'est des PENAF, les projets qui étaient au dernier mandat, c'est vrai que c'était pas sous la loi AER, mais aucune des conditions qui sont là n'était respectée. C'était de l'opportunité. Et je me rappelle d'un projet pas très loin d'ici où au-dessous il y avait des brebis, une cinquantaine, et l'éleveuse qui était là, elle dit « Mais moi je suis dans l'Aude, je vais faire la transhumance. » À mon avis, par rapport à la pérennité, elle va le faire deux fois. De là à dire que c'était du pipeau, pas passez-moi le terme, mais je l'ose. Il y avait quand même un peu de ça, c'est la pérennité. La troisième, l'avis des collectivités, je sais pas où il est. Est-ce qu'il va être conforme? La CDPENAF, je connais, il y a l'avis simple et l'avis conforme. Si les collectivités ne donnent pas d'avis conforme, on va se retrouver, ce que disait Nadia Essant tout à l'heure, c'est-à-dire que, il y a un avis, mais on passe outre. Et le grand truc, c'est la notion de revenu agricole. Alors là, et là, c'est l'ancien fiscaliste agricole qui parle. Est-ce que ce sont des revenus accessoires à l'agriculture, donc qui augmentent le revenu agricole global? Ou est-ce que ce sont des revenus fonciers, et pas du tout des revenus agricoles? Et au vu des sommes qui sont annoncées de la rémunération du propriétaire, je sais pas si c'est 500 euros ou 3000 euros hectare, mais 3000 euros hectare en revenus agricoles, à part de faire des productions prohibées et qui se fument en général. Non, je ne sais pas du tout comment on va y arriver. Non. C'est peut-être une boutade, mais à mon avis, c'est là où il va y avoir, et il va y avoir quand même du lobbyisme qui va se faire jour. Ensuite, les fameux décrets dont vous avez parlé, la loi climat et résilience qui nous gère depuis 2 ans, il y a des décrets qu'on attend toujours, certains ne paraîtront jamais à mon sens. Donc là, eh bien, c'est une belle loi, mais ceux qui vont être chargés de faire avec, d'appliquer notamment les collectivités territoriales qui, pour l'instant, sont complètement démunies. Mais faudra faire avec. Et après, donc, ce sont des surfaces. Là, je prends la casquette ZAN, zéro artificialisation nette. Je pense qu'il devrait y avoir un permis de construire normalement là. Mais c'est pas consommateur d'espace. Parce que c'est réversible. Et donc, la fameuse gouvernance dont il était question, pour moi, elle est essentielle parce que où l'agriculteur ou la collectivité, ou le porteur de projet. Enfin, il faut qu'il y ait là aussi une concertation le plus large possible, parce que pas plus tard que ce matin, avec la chargée des missions, Colline, on a eu un maire qui est venu, il y a un projet sur sa commune, et en fait, il sait pas trop par quel bout le prendre. J'ai tenu à peu près le même raisonnement, hein, sans avoir ça. Voilà, si vous voulez, c'est qu'à mon avis, des décrets d'application et des définitions certaines que j'ai énoncées là, vont découler des prises de position et d'autorisation qui, à mon avis, risque d'être très loin de l'esprit de la loi.